Allô, Françoise Vergès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio pour parler de cet événement porté par l'association montalbanaise Esclavage Mémoire Présente qui va se dérouler donc du 22 avril au 3 mai à l'ancien collège de Montauban autour déjà d'une exposition qui va être visible dès demain dont vous êtes la commissaire. Alors Françoise Vergès, vous êtes politologue, écrivain, ancienne journaliste et vous avez été la présidente du comité pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage et l'histoire de l'esclavage. Vous serez donc présente autour de cette exposition, 10 femmes puissantes en lutte contre l'esclavage colonial, et vous donnerez une conférence. Mais avant cela, sous ce titre, c'est vraiment une exposition que vous proposez là. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, cette exposition, donc je l'avais réalisée l'an dernier pour le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, pour le 10 mai, pour la journée du 10 mai. J'avais, si vous voulez, remarqué qu'il n'y avait absolument aucune exposition sur les femmes et l'esclavage colonial en France, qu'on connaît très 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 mal le rôle des femmes dans l'esclavage et encore moins le nom de femmes qui ont lutté contre l'esclavage colonial. Donc c'était d'une part réparer évidemment totalement un silence et une injustice.
Alors vous en avez choisi 10, parmi elles il y a une montalbanaise, mais il y en a des quatre coins de la planète, hein.
Oui, il y en avait quatre coins de la planète, ça c'était extrêmement important. Évidemment, j'avais quand même privilégié aussi le monde colonial français, hein, puisque bon, pour qu'on sache qu'il y a eu des femmes à l'île de la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Haïti, qui étaient à l'époque Saint-Domingue, qui avaient lutté contre l'esclavage. Mais évidemment, c'était extrêmement important de monter une femme du continent africain, de la Jamaïque, du Brésil, enfin, de montrer évidemment de l'Angleterre, des États-Unis, à quel point finalement partout, dans tous les pays, des femmes qui étaient esclaves ou qui ne l'étaient pas, avaient rejoint le combat anti-esclavagiste.
Alors, seulement 10 ou est-ce que le choix a été difficile pour ces 10-là ou bien finalement, et il y en avait pléthore ou alors finalement il y en avait très peu?
Il n'y en a pas vraiment pléthore finalement, si vous voulez, parce que vraiment, il y en a beaucoup de choses évidemment sur les États-Unis. On en a beaucoup plus, d'une part parce que l'esclavage dure plus longtemps là-bas. La photographie existe à un moment donné, on peut prendre des photos. Il y a aussi quand même une tradition d'enregistrer des témoignages d'esclaves beaucoup plus tôt que dans le monde colonial français. Donc vous en avez plusieurs. Mais c'est assez difficile. Il y en a évidemment plus que cette dizaine. Mais si vous avez peu d'archives sur les esclaves, enfin de témoignages directs sur les esclaves hommes, alors sur les esclaves femmes, vous en avez encore moins. C'est beaucoup encore plus difficile de trouver des informations. Donc pour beaucoup de ces portraits, beaucoup de ces femmes, j'avais très peu d'informations.
Alors parmi ces 10, est-ce que vous pouvez nous en présenter, je sais pas, 2 ou 3?
Alors par exemple, il y a Claire qui était esclave en Guyane et qui s'est échappée, qui est devenue marronne, comme on dit, donc marronnage, c'était d'échapper à l'esclavage, et qui a rejoint une communauté d'esclaves marrons en Guyane, qui avait un compagnon, qui avait des enfants. Et lors de chasse, parce qu'on chassait les marrons, on envoyait des armées pour les combattre, pour les écraser, elle a été capturée avec son compagnon, torturée et pendue devant ses enfants pour effectivement faire exemple. Et de cette femme, Claire, je n'avais que son prénom, et là-dessus, c'est-à-dire cet événement de sa capture et de sa mise à mort, on sait très peu de choses d'elle, comme on sait très peu en général de choses des esclaves. Et donc, dans cette situation, j'ai reconstitué le contexte. J'ai parlé de ce que c'était que le marronnage, de l'importance que ça avait eu en Guyane. Une autre femme, c'est Eva, une femme de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui a vécu très très longtemps, mais très longtemps dans les montagnes avec son compagnon en chien, et donc qui a été vraiment une de ces femmes qui a participé à la résistance contre l'esclavage, ou cette femme haïtienne qui est partie au combat, parce que vous avez des femmes en Haïti qui ont participé au combat contre les troupes napoléoniennes, qui est partie au combat et qui combattait aux côtés donc de ses frères d'armes.
Qu'est-ce que nous apprend l'histoire de ces femmes et plus largement l'histoire de l'esclavage pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui ?
Alors, l'histoire de ces femmes, d'une part, pour ce qui est du féminisme en Europe ou aux États-Unis, il faut savoir qu'il s'est ancré dans l'anti-esclavagisme. Les femmes, à l'époque, ont fait une relation, un lien entre leur situation, être soumises à leur père, à leur mari, avec celle des esclaves, c'est-à-dire le manque total d'autonomie. Évidemment, c'était une analogie qui pouvait aller que qu'à un certain point, parce qu'elle n'était pas vendue, mais enfin, c'est vrai qu'elle n'était pas, enfin, elle n'était pas isolée, déportée, vendue. Mais elles ont fait, donc, leur féminisme, leur perception de l'injustice qui leur est ancrée dans leur opposition à l'esclavage. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point il y a, on pourrait parler d'un premier mouvement féministe international. Certaines ont rencontré des femmes noires américaines qui étaient libres, sont allées en Angleterre rencontrer les abolitionnistes. Il y a eu donc les blancs et les noirs, pour parler ainsi, qui se sont rencontrés. Donc ça, c'est le deuxième point qui est extrêmement important. Ensuite, on connaît, comme je vous l'ai dit, très mal la situation des femmes. Les femmes esclaves étaient soumises aux mêmes travaux aussi durs que les hommes et aux mêmes châtiments quand elles étaient enceintes aussi. Alors ça, c'est aussi une dimension. Et ce que vous me dites alors sur la question qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'esclavage colonial, on peut se demander pourquoi finalement un système qui est condamné assez rapidement va quand même durer 4 siècles. Qu'est-ce qui se passe? Comment obtient-on le consentement des peuples, des sociétés au fait qu'effectivement, quelque part, pour le bien-être des sociétés européennes, il y a des esclaves quelque part qui font en sorte que le sucre, le café, le tabac arrivent en Europe et puissent être consommés. Et en cela, ça nous pose des questions à nous, citoyens du monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas dans nos produits de consommation quotidienne aussi, si vous voulez, une part de travail servile? Est-ce qu'il n'y a pas un système économique qui perpétue l'esclavage, pas sous des nouvelles formes évidemment, sous des nouvelles formes, mais qui malgré tout sont aussi évidemment destructrices pour les personnes qui en sont victimes? Je pense que ça pose cette question, et ça pose aussi la question du long et très difficile combat qu'il a fallu mener contre l'esclavage colonial. Il a duré des siècles aussi avant d'obtenir victoire.
Vous serez à Montauban demain à l'ancien collège à 17h, Françoise Vergès, pour présenter à la fois cette exposition et puis...
Yoann de Gouges, évidemment, qui est à Montauban.
Et évidemment, Olympe de Gouges qui est parmi ces 10 femmes. 10 femmes puissantes en lutte contre l'esclavage colonial. Merci Françoise Vergès d'avoir été sur CFM pour en parler.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. À demain. À demain.